Moi, c'est André Dimboumaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs. La mobilisation des ressources dans la lutte contre le VIH/SIDA était au centre du dialogue national sur le VIH/SIDA qui s'est tenu à Kinshasa du 14 au 15 janvier courant. Ce processus qui a commencé depuis mai 2013 tient compte de l'implication de la base dans l'élaboration des stratégies de mobilisation des ressources et financement de la lutte contre le VIH/SIDA. Ceci relance le débat sur la gestion et l'efficacité de la lutte contre le VIH/SIDA en RDC. Comment jugez-vous l'évolution de la lutte contre le VIH/SIDA dans votre milieu? Nous en parlons avec le docteur Assali Saloubezia Théodore, directeur adjoint du programme national de lutte contre le SIDA PNLS. J.R. Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Nsialan. Pierrot et la Meji vous la présente sous la supervision de Nico Lungaka, 081 890 4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Partant du dialogue national sur le VIH/SIDA qui s'était tenu à Kinshasa du 14 au 15 janvier courant, nous faisons le point avec vous sur l'évolution de la lutte contre le VIH/SIDA dans votre milieu. Qu'est-ce qui se passe? Comment appréciez-vous cela? Quels sont les défis à relever? C'est ça la question au centre de notre échange avec vous aujourd'hui. Et pour en parler, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous avons en direct ici à Kinshasa le docteur Assali Saloubezia Théodore, qui est le directeur adjoint du programme national de lutte contre le SIDA, PNLS. Docteur Assali, vous êtes avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et partagé ces sujets avec les auditeurs des Radio Okapi. Pour revenir d'abord à ce qui a fait l'actualité, à savoir le dialogue national sur le VIH-SIDA. En bref, peut-on avoir en quelques mots les objectifs de ces dialogues?
Oui, en fait... Le dialogue qu'on a tenu pendant la période que vous avez déjà bien mentionné avait comme objectif de permettre à tous les citoyens congolais de s'exprimer par rapport à l'avenir sur le VIH. Et pour s'exprimer, il fallait faire un bref aperçu sur ce qui s'est passé, sur le financement antérieur, et voir comment la lutte peut être une lutte à impact visible et efficace par rapport aux années à venir. Alors, il fallait inviter toutes les parties prenantes et tous les acteurs pour qu'ils se prononcent, parce que le pays venait d'avoir un nouveau plan stratégique et multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. Et il fallait que les gens l'adoptent et puissent déterminer les priorités pour les années à venir.
Voilà. Mais par rapport au parcours, comment ce parcours, les participants ont-ils jugé le parcours de la lutte contre le VIH/SIDA dans notre pays en termes d'efficacité?
Oui, il faut admettre que les efforts sont consentis, et les résultats sont là, mais il reste encore beaucoup de choses à améliorer dans l'avenir. C'est comme ça que ce dialogue a permis, parce que les ressources sont très limitées, mais comment on devrait fixer les priorités pour que la liste devienne une liste à impact visible.
Pour revenir maintenant sur ces priorités, est-ce qu'on peut avoir en grande ligne aussi ce que les participants ont pensé qui doit être fait d'une manière prioritaire pour effectivement arriver à cette lutte à impact visible?
Ok, ce qu'il faut admettre, c'est qu'aujourd'hui, il faut connaître d'abord l'épidémie, comment le facteur VIH se comporte par rapport au pays, qui sont les personnes les plus touchées, où sont les besoins non couverts les plus immédiats, et comment affecter les quelques ressources rares sur base d'un cadre d'investissement qui a été élaboré pour appuyer le plan stratégique multisectoriel. C'est comme ça qu'on a déterminé les 6 priorités dans l'avenir par rapport au financement du Fonds mondial. Et là, nous avons, parmi ces 6 priorités, c'est d'abord la transmission du VIH de la mère à l'enfant, comment continuer à assurer les soins de qualité aux personnes qui sont déjà sous traitement. Actuellement, jusqu'en fin juin 2013, à peu près 77 000 Congolais sont sous ARV. Comment continuer la continuité? Et il fallait voir, nous sommes un pays où les taux de les gens connaissent, ne connaissent pas leur état sérologique. C'est seulement moins de 10% des gens qui connaissent. Mais comment faire un grand pas pour le dépistage à grande échelle?
Oui.
Parce que on qualifie aujourd'hui l'épidémie du VIH/SIDA en RDC comme une épidémie cachée. Tant que beaucoup de gens ne découvrent pas leur état sérologique, on va continuer à parler des chiffres, mais beaucoup de gens n'auront pas à voir les succès actuels par rapport à la prise en charge de l'infection. Alors, on a déterminé également qu'il faut soutenir les programmes, parce qu'il faut bien coordonner l'action de la lutte à travers tous les pays. Il faut faire les suivis, évaluations, etc. Et on a insisté également sur les malades qui ont en même temps la tuberculose et le VIH. Ce sont deux grandes maladies pour lesquelles il faut un long traitement.
Oui.
Et il faudrait que le pays développe vraiment une politique qui doit aider les malades qui sont les deux maladies là, avoir le traitement anti-tuberculé et le traitement anti-rétroviral. Voilà en bref ce qui a été retenu comme priorité par toutes les parties prenantes au dialogue.
Mais par rapport aux personnes les plus touchées, ça aussi c'est important. Il faudrait peut-être que les auditeurs se rendent compte, comme vous l'avez dit, hein, on se rend compte que l'épidémie est cachée par le fait que beaucoup de gens ne se font pas dépister. Mais aujourd'hui, qui sont les personnes qui sont les plus touchées par ces problèmes, par l'épidémie?
Ok, il faut admettre que il y a beaucoup d'études qui soutiennent les données que nous donnons et que nous livrons. Mais par rapport à notre pays, nous présentons une grande particularité, c'est que beaucoup de gens vivent en relation stable pendant longtemps. Ça peut être des relations formelles ou informelles, qu'on qualifie aujourd'hui de couples stables. Dans ces couples-là, comme vous le savez, il est difficile de négocier les préservatifs, quand on a déjà vécu pendant longtemps avec un conjoint ou une conjointe. Et quand on est allé à côté, on vient rarement dire la vérité. Alors, les études prouvent que c'est à 75% des cas pour les années à venir, l'infection viendra dans ces couples-là, les couples dits stables. Alors, donc ça représente la population générale. Et nous devons avoir des stratégies propices. Comment, au niveau des ménages aujourd'hui, on peut connaître tous les statuts sérologiques de tous les membres qui composent un ménage. Là, c'est un grand défi. Mais on sait aussi qu'il y a des groupes particuliers qu'on appelle les populations qui peuvent jouer le moteur de l'épidémie. Les populations clés, parmi lesquelles il y a les professionnels de sexe.
Oui.
Il y a des hommes qui font des relations sexuelles avec les hommes. Et les études ont prouvé une prévalence jusqu'à 31% chez les hommes qui font des relations avec les hommes. Il y a une séropositivité. Chez les femmes PS, les études ont prouvé que, même si la population générale a une prévalence de 1,1,
oui,
mais chez les femmes et les professionnels de sexe, les études comportementales ont témoigné d'une prévalence de 7,6 en 2012. Et vous avez également, les femmes sont plus exposées, dont les femmes militaires, les femmes commerçantes, les femmes qui ont aussi des revenus, toutes ces catégories-là constitue une catégorie pour laquelle il faut apporter des réponses très efficaces.
Voilà. Oui, mais docteur, on va s'arrêter là pour cette première intervention. Le temps d'écouter aussi les auditeurs, comme nous avons dit, nous sommes en interactivité avec nos auditeurs qui nous écoutent à travers le pays. Ils peuvent nous dire ce qui se passe dans leur milieu, comment ils apprécient l'efficacité de la lutte, mais aussi les pistes des solutions, ce qu'ils proposent dans cette émission à partir des expériences de leur milieu. Voilà, tout cela va être partagé ensemble avec vous dans cette émission. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 081-890-569-4969, 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Jean Sengui qui nous appelle de Kinshasa, dans la capitale. Jean, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Radio Capi. Bonjour, je parle aux auditeurs.
Vous avez suivi l'introduction avec notre invité. Vous êtes à Kinshasa et nous parlons, chacun dans son milieu, comment il apprécie l'évolution de la lutte contre les VIH/SIDA, ce qui s'est fait dans votre milieu, quels sont les défis à relever pour vous qui êtes ici à Kinshasa. On vous écoute, Jean.
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, je me suis rendu compte comme si la lutte contre ces plaies aussi à Kinshasa, on dirait que on a baissé un peu les bras. C'est ce que j'ai eu comme impression. Parce qu'il y a eu un moment donné, là, il y a une année, deux ans passés, où quand même il y avait des fortes sensibilisations dans les différents milieux.
Mm-hmm.
Alors, par exemple, le problème de dépistage. Nous savons que pour que quelqu'un aille se faire dépister, c'est tout un problème. Il doit être encouragé par son entourage, par ceux qui sont déjà, bon, pas expérimentés, mais ceux qui ont l'habitude de faire le dépistage. Mais nous constatons dans les différents milieux, dans les différents quartiers, on n'en parle plus. Alors, je voulais mettre un peu plus particulièrement l'accent sur l'utilisation des préservatifs. Parce qu'on dit que, voilà, pour se prévenir, il faut utiliser les préservatifs. Mais pas mal de gens, pas mal de spécialistes de sexe plutôt, ne savent pas comment utiliser le préservatif. Et ça aussi, et puis quelqu'un utilise le préservatif parce que l'effort seulement du préservatif, ça suffit. Non. Mais vous pouvez mal porter le préservatif, mais vous êtes aussi exposé. C'est pourquoi je voulais demander à ce que ce soit dans les milieux professionnels, dans les milieux universitaires ou dans les différentes écoles, qu'on relance encore ces activités-là, surtout au niveau des universités et des écoles. Les différentes écoles de Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, mais ailleurs aussi. Même dans les entreprises. Ok, je me rappelle quand nous étions à l'université, il y a une année, on avait fait un travail pratique sur la préservation de disons, à cette fléau de sida. Nous sommes allés dans les différents centres, notamment à Mokongo, où la première question, c'était d'abord nous faire dépister nous-mêmes. Après, au retour à l'école, on a pris les préservatifs avec une bouteille pour démontrer aux yeux des étudiants comment il faut utiliser le préservatif à partir de son enlèvement dans la petite plutôt enveloppe où il est contenu jusqu'à l'usage final.
Mm-hmm.
Et nombreux étaient très contents parce qu'ils ne savaient même pas comment déchirer cette imperméable et comment utiliser. Alors ça c'est déjà un problème, même surtout dans les milieux universitaire où le sexe s'est devenu en tout cas monnaie courante.
Voilà. Merci beaucoup Jean. Voilà. Merci beaucoup Jean. Mais ça, ce que vous avez dit, c'est très important. Nous avons aussi Mathieu qui est à Kananga. L'impression que vous avez, Jean, à Kinshasa, vous voyez, vous pensez qu'il y a une baisse des sensibilisations, de campagnes de sensibilisation, et aussi par rapport au dépistage. Vous voudrez bien qu'on puisse renforcer la sensibilisation dans les milieux universitaires, scolaires, dans les entreprises aussi. Merci beaucoup pour cette proposition, Jean. Vous êtes ici à Kinshasa, Mathieu. Vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Pierrot.
On vous
d'abord,
écoute.
Merci pour la parole.
Merci, on vous écoute.
La situation est la même, Monsieur Pierrot. D'abord, moi-même personnellement, j'avais suivi de près ces assises de Kinshasa du 14 janvier au 15 janvier 2014, dont les travaux de dialogue national et de l'élaboration de la note conceptionnelle. Je ne sais pas si vous m'excusez.
On vous écoute, monsieur.
De la composante VIH-SIDA organisée par le Comité national de la coordination du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.
Mm-hmm.
Mais ce qui m'a intéressé dans ce forum, c'est d'abord les 6 axes censés prioritaires pour l'intervention. Il s'agit de la prévention, associer la population en général, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, la prévention chez les hommes intransigeants, la prévention chez les professionnels du sexe et leurs clients, les traitements, la prise en charge ainsi que la gestion des programmes. Dans tout ce que je viens de citer, M. Pierrot, nous le répétons souvent, et sans commentaire, sont souvent prises comme solution dans des différents ministères dans ces domaines. La question que je pose à notre invité est de savoir, quelle est la nouvelle disposition prise pour obtenir maintenant, pour changer tout, surtout les cas de budget qui sont souvent cités sans voir la réalité sur le terrain, surtout en ce qui concerne son mode d'emploi et l'utilisation. Les femmes étaient là, lors de ces assises, il y avait les étudiants, et ainsi de suite. Mais Ça devient maintenant la répétition. Nous ne parlons pas le changement dans tout ce qu'on cite. Ce sont des choses qui se répètent de jour au jour. Mm-hmm. Je vais demander à votre invité, maintenant et tout de suite même, quelle est la modalité prise pour le changement dans voilà. tout ce qu'il vient de nous
présenter comme accès présent. Merci beaucoup Mathieu. D'ailleurs, vous êtes à Kananga et on suit vraiment la maîtrise avec laquelle vous avez énoncé les axes prioritaires hein, et même les thèmes qui ont été traités au cours de ce dialogue. Ça montre vraiment que vous avez eu beaucoup d'intérêt et vous avez suivi de plus près hein, ce qui s'est passé ici à Kinshasa. Et alors, vous pensez que ce qui a été dit, ce sont des choses qui reviennent de temps en temps, on les dit, mais cette fois-ci, quelles sont les garanties? Vous voulez demander à notre invité, quelles sont les dispositions pour qu'on sente vraiment le changement sur terrain dans la lutte contre le VIH/SIDA, pour qu'on ne revienne pas toujours sur les mêmes mots. Merci beaucoup Mathieu pour cette intervention. Serge, vous êtes à Bounia, en province orientale. Bonjour Serge. Serge, vous êtes avec nous, bonjour.
Ben, bonjour.
On vous
bonjour,
écoute.
L'émission. Et je voulais juste intervenir pour l'émission, parce que c'est ma toute première fois d'intervenir sur cette émission. Mm-hmm. Je suis très ravi de connaître le sujet, de parler du sujet en question.
Oui.
Et depuis que moi je suis ici, moi je viens d'arriver, ça fait au moins depuis le mois de juillet, je suis à Bounia. J'ai fait mon Gualou là où il y a des sites minérés. Je vois pas là où l'État est en train de lutter contre le VIH/SIDA. Ici à Bounia, j'ai remarqué que le VIH/SIDA est propagé donc dans tout le milieu. Je ne vois pas la lutte, comment est-ce que l'État nous dit que non, ils sont en train de faire tous les moyens pour lutter par rapport à Kinshasa. Nous voyons à Kinshasa, les gens utilisent des préservatifs dans des couples, dans des relations sexuelles, tout comme ça. Mais ici à Bounia, les gens n'aiment pas des préservatifs. Et maintenant, je demande à notre invité, comment l'État pense-t-il qu'il va commencer à lutter pour arrêter cette épidémie de sida? Quels sont les moyens? Parce que jusque-là, ici à Bounia, ce sont des jeunes, des filles de 18 ans, 15 ans, ce sont des gens, des jeunes filles qui ont atteint du sida. Et dans des milliers qu'on exploite le minerai, surtout de l'or là-bas, il y a des expatriés qui viennent des autres pays, ils sont à tête du sida, mais parce qu'ils ont des moyens, ils ont facilement de femmes. Et ils propagent le sida facilement aux femmes d'ici. Et les femmes de là, quand il est dans cette maison, elles quittent cette maison pour aller dans cette maison. Elles quittent cette maison pour aller dans cette maison. Ils vont avec n'importe qui.
Et là, ce que vous avez dit, oui, voilà. Si on vous écoute bien, Serge, au-delà du fait que vous, des affirmations du genre qu'il y a des étrangers dans les sites d'exploitation minière qui sont contaminés, qui propagent le sida, même à Bounia, les jeunes qui sont touchés, c'est vrai ce que vous dites, il faudrait avoir beaucoup plus de précision hein, en termes des statistiques, en termes des chiffres pour prouver cela. Mais le sens reste vrai. Le problème, c'est que vous venez de Mongualou, en province orientale, où on exploite de l'or. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas des activités de sensibilisation, de lutte contre les accidents dans ces milieux-là d'exploitation minière, tout comme aussi à Bounia où vous êtes depuis le mois de juillet, vous ne voyez pas les activités, les campagnes de sensibilisation. Et la question que vous posez à notre invité, le docteur Assali, c'est de savoir quelles sont les mesures pour arriver à atteindre, par exemple, les milieux d'exploitation minière et amener aussi la lutte contre les VIH/SIDA. Merci beaucoup Serge de Bounia. Nous allons écouter Franck de Bukavu et on va revenir à Dr Assali pour pouvoir commenter les points de vue et les préoccupations des auditeurs. Franck, vous êtes à Bukavu, dans le sud Kivu. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. C'est Franklin Matumaini depuis Bukavu.
On vous écoute.
En fait, moi je me pose une question. Pourquoi, au-delà de toutes ces campagnes qui sont menées, les gens n'arrivent pas toujours à se dépister volontairement? Et donc, en me posant cette question, j'arrive à certains nombres de réponses. Parce que si vous regardez qu'il y a une sorte de, il y a une forme de stigmatisation qui sont faites sur les personnes qui vont avec les VIH/SIDA. C'est pour cela que les personnes qui sont atteintes par les maladies se cachent et ne veulent pas se faire dépister pour se faire découvrir, pour ne pas subir les mêmes stigmatisations. Parce que quand vous allez même dans le milieu éducationnel, un milieu sanitaire, un milieu professionnel, un milieu religieux, un milieu carcéral, donc dans tous les milieux, lorsqu'on sait que non, vous êtes déjà atteint attaqués par les virus du VIH, vous êtes vraiment traumatisés dans la société. Deuxièmement, les médecins eux-mêmes, les médecins qui font le dépistage, il y a certains médecins qui ne gardent pas les secrets professionnels. Dès qu'ils savent que quelqu'un est déjà atteint par le VIH, ils se permettent d'aller divulguer ça dans la cité, et cela, ça décourage certaines d'autres personnes pour aller se faire dépister, parce qu'ils savent que non, dès que je suis dépisté par tel médecin, dès que je suis connu, et donc je serai connu par tout le monde. C'est pour cela que moi je voudrais proposer, au-delà de tout ce qu'on peut faire, les auditeurs qui m'ont procédé l'ont déjà dit, la sensibilisation est tellement faible. Les gens ne savent pas l'importance de se faire dépister. C'est pour cela qu'il faut renforcer la sensibilisation dans toutes ces structures-là. Et donc, moi, je voudrais aussi poser la question à notre invité. Quel est aujourd'hui l'état de prise en charge de personnes vivant avec le VIH-SIDA qui est prévu par le gouvernement? Comment se présente la carte, l'état des personnes vivant avec le VIH-SIDA en République démocratique,
voilà,
du Congo?
Merci.
Et quelles sont les mesures de prise en charge qui sont envisagées par le gouvernement?
Merci beaucoup, Franck. Nous allons d'ailleurs accorder la parole tout à l'heure après quelques secondes à notre invité. Nous avons eu Jean de Kinshasa, Mathieu de Kananga, Serge de Bounia, Franck de Bukavu. Les questions se sont regroupées autour de la faiblesse de la sensibilisation en termes de dépistage, les campagnes de sensibilisation, l'usage du préservatif. Mathieu a posé la question à notre invité par rapport aux dispositions qui doivent accompagner la réussite des axes prioritaires qui ont été définis. Serge de Bounia est revenu sur l'activité dans le milieu d'exploitation minière, où il n'y a pas assez de sensibilisation, mais aussi le problème de la stigmatisation qui pousse de beaucoup de personnes à vivre en clandestinité et n'est pas livré au dépistage. Il y a aussi cette question posée par notre ami de Bukavu sur l'état de la prise en charge des PVV dans notre pays. On va accorder la parole à notre invité après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Docteur Assali, Théodore, vous êtes avec nous. Vous avez suivi les uns et les autres. Voilà comment chacun dans son milieu a aperçu le problème de l'évolution de la lutte contre le VIH-SIDA aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ce que nos auditeurs ont pu exposer comme préoccupation dans leur milieu?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que toutes les préoccupations formulées sont très fondées. Il y a encore la nécessité d'un dialogue à grande échelle.
Oui.
Parce que quand on attend... Les réactions là, ce sont des réactions très préoccupantes, mais il faudrait aussi dire que je vais commencer à répondre globalement. J'ai dit, comme celui qui a suivi, la détermination aujourd'hui des priorités constitue pour nous un pilier important pour faire une liste à impact visible. Parce que depuis nous avions eu une opportunité le 1er décembre 2013, PNLS avec tous les acteurs de lutte, dont le PNLS également, nous sommes allés faire un grand plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que le problème se résume à ce qu'on a mis dans cette journée-là, qu'il faudrait plus de responsabilité, plus d'engagement pour chaque Congolais, pour que nous tous nous puissions mener des efforts visant d'abord à connaître son état sérologique. C'est un effort de chacun pour soi. Chacun doit être responsable de la connaissance de son état sérologique, parce que cela offre plusieurs avantages. Plus vous connaissez votre état sérologique très tôt, plus si vous êtes positif, on va vous prendre en charge précocement et vous aurez une longue vie comme la personne qui n'a pas l'infection à VIH. Mais plus vous êtes découvert tardivement à l'état de la maladie, plus il faut encore beaucoup d'efforts pour vous donner encore une meilleure qualité de la vie. Et tout ce qui revient à dire et tout ce que les gens ont dit, nous avons sensibilisé la haute institution nationale, l'Assemblée nationale, pour que le budget du gouvernement soit un budget conséquent par rapport à la lutte contre le VIH. Nous savons que la lutte contre le VIH aujourd'hui demande une solidarité internationale et pour laquelle les fonds qui viennent sont limités et pour lesquels pour lesquels il faut aujourd'hui faire des actions et un impact visible comme l'a souhaité les uns et les autres. Mais je voudrais revenir en particulier sur les jeunes. Les jeunes ont été identifiés vraiment comme étant, comme on dit, la cuvette d'espoir. Et si nous n'agissons pas sur les jeunes aujourd'hui, nous hypothéquons déjà l'avenir du pays en termes de potentiel, en capital humain, et ces hommes qui doivent produire et faire développer du point de vue socio-économique ces pays,
oui,
vont devenir amortis. Et les autres qui sont en vie n'auront pas une meilleure qualité de vie. Donc, c'est pour dire que la sensibilisation qui passe d'abord pour que le budget de l'État soit augmenté va permettre à ce que, comme les axes prioritaires sont connus, les stratégies également, c'est ce que l'auditeur n'a pas dit. Aujourd'hui, je peux donner par exemple pour les écoles, comme l'autre l'a souhaité, les universités. Nous devons être capables d'avoir des centres conviviaux de jeunes où les jeunes échangent sur les axes. Nous devons être capables de mettre les intras pour le dépistage et même mettre des services pour la référence des gens qui sont atteints par le VIH. Ça, c'est dans les stratégies. Je ne suis pas en train de donner tout ce qui est dit dans le plan stratégique, mais je me dis que les préoccupations des uns et des autres sont plus fondées. Et pour celui qui dit comment l'État agit, l'État, c'est nous tous. Hein. Quand on dit l'État agit, c'est à tous les niveaux. Chacun là où il est, il doit apporter une réponse à la lutte. Et parce que tout le monde a déjà vécu des perceptions du VIH. Nous tous, nous avons déjà perdu un ou deux membres de famille qui sont morts du VIH. Et l'effort qu'on doit mener tous, est-ce que je connais mon état de statut sérologique? Pour celui qui parle de Mungwalu, à Mungwalu, nous avons fourni un service depuis 2007. Et on a à peu près une centaine de malades qui sont sous ARV à Mungwalu.
Oui.
À Mungwalu. Peut-être il aurait raison de nous dire que la sensibilisation elle est faible. Et nous avons pris conscience que parmi les groupes les plus exposés également, il y a les miniers. Et il faut mener des efforts avec toutes ces sociétés minières pour savoir quelle est la réponse que nous devons apporter à cette catégorie particulière.
Oui.
Nous admettons avec lui que les efforts sont encore labiles et qu'ils ne sont pas encore très en termes de perception efficace.
Nous voulons
que le Congo continue à s'exprimer pour que nous réorientons également le preneur de décision, que les décisions soient orientées, comme je l'ai dit au début de notre conversation, là où il y a les grands besoins.
Oui, docteur, il y a un autre ami de Bukavu qui est revenu sur le problème de la stigmatisation qui est aussi à la base du refus de dépistage volontaire. Mais il vous a aussi posé la question de savoir l'état aujourd'hui des prises en charge des PVV. Vous avez parlé des 77 000, je crois bien si j'ai bien noté, 77 000 personnes qui ont accès aux ARV. Est-ce que ce nombre, il est suffisant? Combien on sont vraiment dans le besoin réel aujourd'hui à travers le pays si les chiffres sont connus?
Oui, l'auditeur est vraiment informé sur le VIH, sachant que parmi les causes qu'il faut faire que les gens ne se fassent pas dépister, il y a la stigmatisation, il y a même l'absence de services, on peut se dépister, s'il n'y a pas de service, quel est l'avenir? Tout ça, nous sommes conscients, mais nous disons que par rapport à aujourd'hui, la réponse, elle est presque généralisée. Il n'y a aucune province qui n'a... Nous avons 633 structures aujourd'hui qui offrent la prise en charge aux ARV. Et ces 633 structures sont réparties sur toute l'étendue de la République. C'est peut-être les stratégies que nous allons revoir.
Oui.
Avant, c'était seulement les médecins qui prescrivaient les ARV. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles directives de l'OMS que nous venons d'adopter au mois de juillet au niveau du pays, les infirmiers vont commencer à dispenser les ARV dans les centres de santé. Et si les gens sont dépistés, ça serait, alors le VIH serait pris dans le même paquet minimum d'activités qui sont menées dans les centres de santé. Donc on n'ira plus chercher les ARV dans les grands hôpitaux, on va commencer à avoir les ARV là où on vit. Et c'est ça l'effort qui est tenté d'être fait par le gouvernement à travers le ministère de la Santé, pour que là où la personne vit, parce que c'est une maladie qu'on va traiter à vie, que la personne reçoive les ARV. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments.
Oui.
Mais on ne peut pas toujours faire venir les médicaments si les gens ne se sont pas encore dépistés. Et quand on saura que les gens se sont dépistés en nombre suffisant et qu'ils réclament les ARV, nous avons un gouvernement qui est responsable. Et le gouvernement assure la gratuité pour les soins aux ARV. Et je pense que le gouvernement pourra acheter les médicaments, doit acheter les ARV, parce qu'ils sont sur la liste des médicaments essentiels qu'on doit donner au niveau des centres de santé.
Voilà. Comment jugez l'évolution de la lutte, comment jugez-vous l'évolution de la lutte contre les VIH-SIDA dans votre milieu? C'est la question au centre de notre partage dans Parole aux auditeurs. Ces jours, Clément est en Bujimaï, au Kasaï oriental. Adrien est à Kimpese et dans les Bas-Congo. Vous avez besoin aussi de contribuer à cette émission sur la lutte contre le VIH-SIDA. Vous avez une préoccupation, mais aussi un point de vue et une proposition pour améliorer ce secteur de notre domaine de santé en RDC qui est aussi si très très préoccupant. Vous pouvez nous appeler au 081 890 49 69.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Clément, vous êtes en Bujimaï au Kasaï oriental, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à la Radio Capi.
On vous écoute Clément.
Oui, je voudrais encourager PNLS par rapport à son travail, mais ce que je voudrais un peu savoir, j'ai deux petites préoccupations. Mm-hmm. Quel est le pourcentage par rapport à l'évolution du travail qu'ils ont dans l'entreprise depuis le début de PNLS jusqu'à aujourd'hui et par rapport à la prise en charge et par rapport à la contamination et par rapport à la sensibilisation. Parce que, à voir, j'ai vu que la sensibilisation a très sensiblement diminué l'exercice 2013, et jusqu'à aujourd'hui, si on continue comme ça, nous allons de mal en pire. Mais je voudrais proposer au PNLS, ne faut-il pas possible entrer en contact avec les églises, ravitailler ou fournir aussi les églises certaines informations ou prendre les pasteurs en formation pour que eux aussi à leur tour, comme ils réunissent un aussi grand nombre de fidèles, ils transmettent les messages qu'ils peuvent faire dans leurs associations. Donc c'est aussi une initiative pour éradiquer cette maladie et les contaminations futures. Voilà un peu une petite préoccupation ce petit matin.
Merci beaucoup Clément. Vous avez d'abord demandé à notre invité que les PNLS travaillent à l'évolution de la lutte, l'évolution en termes de contamination. Voilà, c'est que les statistiques ont été données. D'ailleurs, au début de l'émission, nous avons quelques chiffres que le docteur Assali a pu donner, mais bon, vous avez aussi remarqué la baisse des sensibilisations, mais vous souhaitez, vous proposez au PNLS de pouvoir associer les églises. Moi, je peux parler en termes des confessions religieuses, toutes tendances confondues, qui ont beaucoup de gens qui seraient nus, si on peut leur fournir des informations nécessaires et les associer dans cette campagne des sensibilisations. Merci beaucoup Clément. Adrien, vous êtes à Kimpese dans le Bas-Congo. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Et nous dégageons ensemble, nous faisons le point sur l'évolution de la lutte contre les VIH-SIDA dans notre milieu. Vous êtes à Kimpese, parlez-nous un peu de la manière dont cette lutte se mène dans ces milieux.
Oui, voilà, donc je crois que ce n'est pas étonnant. Ici, à Kimpese, où je suis, comme nous sommes dans un grand centre hospitalier, ce qui est très connu, Imé Kimpese, moi je pense que sans faire des commentaires, la sensibilisation est très bonne. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que je remarque ici? Moi je suis, comme je dis, je suis président d'un parti politique. Nous sommes aussi parfois associés. On fait cadre des activités aux agents de l'humain. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que je voudrais un peu demander à l'invité et vous qui êtes journaliste? Oui, parce que dans beaucoup de interventions, j'ai suivi dans beaucoup de provinces, il y a faiblesse sur la sensibilisation dans le VIH-SIDA. Et pourquoi je voudrais un peu demander, vous par exemple qui êtes journaliste, dans ce genre d'intervention, est-ce que, comme l'invité a dit qu'il a cité quelques personnes qui sont plus victimes de cette situation, sont les commerçants, les femmes
militaires dans les camps de réfugiés. Est-ce qu'il est impossible dans ce genre de mission de donner l'occasion à cette catégorie-là? Parce que ici, quand on parle de cette catégorie, comme je parle ici des commerçants, et c'est quel genre de commerçants? Excusez-moi, monsieur le journaliste, de dire ça à la radio, que ce genre de commerçants qui n'ont pas allé à l'école. Alors, parfois, quand ces émissions passent en français, et ce genre de gens ont des difficultés d'être informés. C'est pourquoi, est-ce qu'il n'est pas impossible à nous qui intervenons chaque fois, il y a par exemple des débats à caractère social, de nous autoriser parfois de discuter en langue lingala pour donner aussi l'accès à ce groupe de gens d'avoir l'accès à cette information. Que je
Merci beaucoup Adrien. D'ailleurs, beaucoup de courage pour ce que vous faites à Kimpesi. Vous êtes un cadre dirigeant d'un parti politique et plusieurs fois vous êtes associé à la réflexion, à la sensibilisation sur la lutte contre le VIH-SIDA à Kimpesi. C'est important ce que vous faites déjà. Merci beaucoup pour ce travail. Mais vous souhaitez aussi que dans nos débats, dans les échanges que nous avons sur le VIH-SIDA, que nous puissions de fois arriver aussi à organiser ces échanges en lingala, pourquoi pas en quatre langues nationales, pour permettre à ceux qui sont plus concernés mais qui n'ont pas aussi la possibilité de comprendre les débats en français puissent participer et qu'on leur donne aussi la parole. C'est une très bonne proposition. Vous avez aussi souhaité que ça soit partagé avec notre invité. Merci beaucoup. C'est important ce que vous avez dit, Adrien. Nous prenons compte de cette proposition, mais nous souhaitons que tout le monde participe au débat, y compris ceux-là qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer en français, mais qui sont concernés, qui sont exposés par la menace de cette épidémie. Merci beaucoup, Adrien. Charles, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oui, et nous dégageons ensemble les pistes et des solutions pour l'efficacité de la lutte contre le VIH-SIDA. On vous écoute, Charles.
Oui, merci pour la parole. Ma petite contribution est celle-ci, c'est en rapport avec la sensibilisation. En tout cas, les gens ne sont pas vraiment sensibilisés. Moi, je suis une personne qui travaille dans les droits de la santé ici, sur place à Kinshasa. Ça va constater que les gens sont vraiment ignorants et c'est faute de sensibilisation. Je prends un exemple. Présentement là, il y a les jeunes qui se trouvent à l'Afrique du Sud. Quand vous voyez à la télévision, il y a beaucoup de gens qui passent. Mais au niveau de santé, on n'a juste pas pensé pour pouvoir également passer aussi. C'est juste faire la sensibilisation. Ça, c'est de un. De deux, dans des points de plus reculés. Je prends par exemple les gens là-bas, tout ça. On a aussi un grand nombre de gens où on peut également aller facilement sensibiliser les gens. Alors, nous voulons seulement demander à ceux qui participent de penser également à la sensibilisation aussi au niveau de la base. C'est tous les moyens possibles pour que les gens soient vraiment sensibilisés. Quand vous suivez la télévision, par exemple, vous m'excuserez. On vous fait passer des histoires inutiles pendant toute la journée, pendant que l'État est là et ça tue beaucoup de gens. Je voudrais également aussi aborder le même sujet, comme on dit mes prédécesseurs, en rapport avec la sensibilisation sur les langues nationales. Par exemple, le Lingala. Si on peut adopter aussi le système que le Lingala utilise pour la chaîne des Molières, vous descendez sur les réponses. Voici un peu ma prédécesseur.
Merci beaucoup, Charles. Vous travaillez dans le domaine de la santé ici à Kinshasa et vous revenez aussi sur les déficits de sensibilisation. Et là, vous avez donné un exemple qui est vraiment important. Par exemple, profiter des grands événements sportifs comme le CHAN qui se joue en ce moment. On aurait voulu avoir pendant ces matchs des CHAN la campagne de sensibilisation sur le VIH parce qu'on sait que beaucoup de gens regardent la télé pendant cette période. Le match RDC, par exemple, Burundi hier, pendant la pause, on aurait vu une campagne de sensibilisation pendant ces moments. On peut atteindre aussi un grand nombre de personnes et vous souhaitez que les chaînes de radio, de télévision à Kinshasa puissent avoir assez d'espace pour parler du sida qui fait du ravage. Merci beaucoup pour cette proposition, Charles. Beaucoup de sensibilisation, mais aussi des sensibilisations en langue nationale sans oublier l'arrière-pays. Merci pour cette proposition. Nous restons dans la capitale avec Junior Lendo qui est ici à Kinshasa. Bonjour Junior.
Bonjour.
On vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres. Plusieurs personnes sont revenues sur le renforcement de la sensibilisation pour rendre la lutte contre le VIH-SIDA plus efficace. On vous écoute, Junior.
Oui, moi je pense que le problème est au niveau de la stratégie communicationnelle. Quelle est la politique communicationnelle utilisée par les structures qui luttent contre le VIH-SIDA pour transmettre, donner l'information à la population. Quelle est la stratégie? Est-ce que la stratégie est efficace? Moi, je pense non. Parce que lorsque nous ne ciblons que les étudiants et les restes de la population qui n'est pas dans les universités est pratiquement à côté de la stratégie. Donc il faudrait penser aussi à ceux, donc il faudrait organiser des conférences au niveau de au niveau des écoles secondaires, au niveau avec le finaliste, ceux qui vont présenter les examens d'État, au niveau des universités, oui, au niveau des marchés, oui, et aussi la langue utilisée pour transmettre le message, donner l'information. Par exemple, il y a un monsieur qui est intervenu, qui a pratiquement épinglé cet aspect de choses. L'émission se passe en français. Naturellement, tous ceux qui ne parlent pas la langue française sont exclus du débat. Mm-hmm. Moi, je pense que le problème est au niveau de la stratégie communicationnelle utilisée par tous ces organismes, qui luttent contre le VIH-SIDA. Et au niveau du dépistage, je pense qu'on doit aussi élaborer des stratégies, par exemple au niveau des universités, élaborer des stratégies. Il y a un certain moment, on faisait les aptitudes physiques pour entrer dans les universités. Aujourd'hui, l'aptitude physique, lorsque vous amenez le certificat signé par un médecin, c'est généralement trafiqué. Donc l'université peut aussi, à ces niveaux, demander à ce que les candidats à l'inscription à l'université puissent aussi procéder au dépistage. Il y a aussi un besoin de financement. Là, j'ai suivi les docteurs. C'était d'ailleurs parmi les objectifs du dialogue national sur le VIH-SIDA. Un besoin en financement pour la lutte. Moi, je pense que s'il faut établir un lien entre la lutte contre le VIH-SIDA et le développement d'une nation, les liens sont tels que si la population est restée à la portée du VIH-SIDA, nous aurons un problème de la main-d'œuvre plus tard. Mm-hmm. Donc, une main-d'œuvre en bonne santé. Mais regardez, lorsque nous voyons la monture du budget national, par le budget, on peut voir les priorités d'un gouvernement. Est-ce que notre gouvernement s'intéresse plus au secteur, à ces secteurs-là? Non, moi je ne pense pas. Mm-hmm. Déjà, parler développement, un premier ministre qui se présente à l'Assemblée nationale, donc pour présenter le budget national, hors délai, donc il n'a pas la culture du développement, il n'a pas la culture du délai, la mentalité du développement. Et donc moi je pense que s'il faut seulement attendre le financement auprès du gouvernement, ça sera une fois de plus un échec.
Si on peut aller rapidement pour permettre à notre invité de placer aussi un mot de commenter à ce point de vue des auditeurs, je retiens la stratégie communicationnelle. Vous avez dit qu'il y a un problème de l'efficacité de cette stratégie pour savoir à qui on s'adresse. C'est vrai, l'émission Parole aux auditeurs est en français. Si on pourra peut-être avoir une émission Parole aux auditeurs dans notre langue nationale, c'est une autre paire de manches. Mais pour le moment, l'émission elle est en français. Vous estimez que l'information passe aussi inaperçue pour beaucoup de personnes qui sont concernées, mais vous avez beaucoup insisté sur la conférence, aller à tous les niveaux des étudiants, les élèves, les marchés partout. Mais il y a une question que je pourrais vous demander aussi à notre invité, c'est par rapport au dépistage. Vous souhaitez, par exemple, au niveau des universités, qu'on exige en test des dépistages pour tous ceux qui veulent bien aller à l'université. Est-ce que c'est une formule efficace? Est-ce que c'est pas déjà au-delà, même en amont, une idée de stigmatisation? Beaucoup de gens risquent d'être frustrés, voilà. Est-ce que ça peut être efficace? On va poser la question à notre invité pendant que Daniel qui est à Kimpese garde la ligne. Je rappelle encore que la question autour de notre émission aujourd'hui, c'est par rapport à la lutte contre le VIH-SIDA dans notre pays. On va accorder la parole à Dr Assali tout à l'heure pour commenter un peu ses points de vue des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Docteur Assali, à les auditeurs qui sont revenus à ce que nous avons déjà dit par rapport au déficit, tout ça, le problème des sensibilisations, on voudrait voir pendant le camp, les grandes campagnes comme le moment de football, avoir des espaces où on sensibilise. Mais il y a aussi cette stratégie de Kimpese qui a été appréciée par notre ami Adrien qui est à Kimpese. Mais au-delà de tout ce qui a été dit, Clément a voulu savoir si dans l'évaluation du travail que le PNL fait, vous vous rendez compte que les choses évoluent en bon. C'est un peu ce qu'il voulait savoir. Mais est-ce que le dépistage peut être aussi conditionné à un emploi, à l'accès à l'université par exemple? Quel peut être l'impact d'une telle décision? Voilà, pour aller au-delà de ce qui a été déjà dit, Dr Assali. Dr Assali, vous êtes avec nous? Ah, on a perdu notre invité que la réalisation va retrouver tout à l'heure pour pouvoir commenter ces quelques préoccupations des auditeurs. En attendant, nous allons à Kimpese dans les Bas-Congo où nous étions tout à l'heure avec Adrien. Cette fois, c'est avec Daniel. Bonjour Daniel. Daniel, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, des petits soucis aussi de réseau en ce moment avec Kimpese à Kinshasa aussi. Mais Rachel est à Isiro en province orientale. Je crois que sa ligne semble être bonne. Rachel, vous êtes avec nous. Bonjour. Vous êtes à Isiro et nous parlons de la lutte contre le VIH-SIDA dans notre milieu. Beaucoup de gens sont revenus sur le déficit de sensibilisation dans votre milieu. Qu'est-ce qui se passe à Isiro, par exemple, dans la sensibilisation sur le VIH-SIDA?
Je dirais que pas vraiment ce qui se passe à Isiro, mais dans les liens qu'il y a au plus niveau de carrière, c'est vraiment qu'on est pour un. Alors, ce que je voulais proposer pour lutter contre le VIH-SIDA, c'est d'établir d'abord l'accès aux carrières de mineurs. Parce qu'il y a plus tard de mineurs que l'accès vraiment dans des carrières. Alors, vous et moi, et avec cet argent de mineurs qui sont plus dans cet argent, c'est de faire des aventures. Et c'est ça, on avait dit qu'il y a plus tard de jeunes. Il y a l'augmentation de jeunes dans le village. Du coup, c'est dur de passer un peu dans des sensibilisations, surtout dans des carrières. Interdire vraiment l'accès aux mineurs.
Merci beaucoup Rachel, mais on a des petits soucis, hein, on vous entend à peine. Mais si j'aurais bien retenu ce que vous avez dit, vous insistez beaucoup à Isiro que la sensibilisation soit plus concentrée dans les sites d'exploitation minière, hein, où il y a beaucoup de jeunes qui sont en activité et qui des fois ils sont abandonnés à eux-mêmes, il y a n'importe quelle pratique là-bas. Merci beaucoup, je crois que notre invité est de nouveau avec nous, Dr Assali. Je vais vous poser la question tout à l'heure, hein. Au-delà de ce que nous avions déjà évoqué avec vous et les auditeurs, il y a Clément qui a voulu savoir si, au niveau du PNLS, il y a une évolution satisfaisante, hein, des activités dans la lutte contre le VIH-SIDA. Mais il y a aussi notre ami Junior de Kinshasa qui a beaucoup insisté sur le dépistage. Lui souhaiterait même que le dépistage soit en amont avant d'aller à l'université, l'emploi, tout ça. Est-ce que cette stratégie ne peut-il pas aussi déjà penser à une stigmatisation et décourager les uns et les autres, docteur Assali?
Ok, merci beaucoup. Je m'excuse du fait que j'ai rompu la conversation. C'est un aléa.
Oui.
Mais je suis tout à fait convaincu et d'accord que de telles émissions sont très importantes pour la population.
Oui.
Parce que là, je viens de suivre. Il n'y a que la population qui peut nous aider, nous décider à orienter nos stratégies. Là, je viens par exemple de suivre les gens qui veulent à ce que les sensibilisations passent par les églises, par les jeunes non scolarisés, etc. Toutes les stratégies sont bonnes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la liste, elle entrevoit deux cibles importantes. La première cible, c'est la plateforme qu'on appelle clinique, c'est-à-dire les soignants eux-mêmes, de tous les niveaux, il faut qu'on les sensibilise encore plus.
Oui.
Si, par exemple, c'est ce qu'on a appelé la stigmatisation, et comment prendre en charge rapidement les personnes qui arrivent. Mais la deuxième, c'est que la réponse au niveau du pays a souffert. Elle a vraiment souffert des manques d'organisation du monde communautaire.
Oui.
C'est-à-dire, celui qui évoquait, par exemple, les églises et les confessions religieuses, aujourd'hui, dans les nouveaux plans stratégiques, le monde communautaire doit être suffisamment développé pour que les messages arrivent dans les ménages. La lutte, elle est restée plus, mais on peut dire, avec les médias, mais aujourd'hui, il faudrait que la communication interpersonnelle soit plus privilégiée. Et c'est comme ça que les financements qui vont venir, on va beaucoup mettre l'accent sur cette sensibilisation-là.
Mm-hmm. Alors, mais
qu'est-ce qui est fait par le PNLS aujourd'hui?
Mm-hmm.
Quels sont les efforts? Moi, je pense que les efforts sont grands, comme je l'ai dit à l'introduction. Mais nous sommes tous encore limités par les budgets. On peut avoir une bonne politique, une bonne stratégie, mais la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, en fonction de ça, les ressources disponibles, nous sommes en train de les distribuer équitablement sur toute l'étendue du territoire. Et je pense qu'il n'y a, il n'y a plus de points où on ne peut pas prendre les malades sous ARD.
Mm-hmm.
C'est déjà un grand effort.
Oui.
Et nous sommes conscients que nous devons multiplier l'effort parce que le pays a souffert de deux incoordinations.
Mm-hmm.
L'incoordination des réactifs ou même des tests ou des intrats qui arrivent dans le pays.
Oui.
Ça, c'est un grand problème. Le deuxième, c'est également l'information qu'on doit partager avec tout le monde. L'un a évoqué, par exemple, tout ce qui se passe dans le monde du travail. Aujourd'hui, le monde du travail n'a pas apporté également une réponse satisfaisante
oui.
par rapport à la liste. Il y a les tiers, bien sûr, mais au moins les adultes, si nous disons que 650% d'adultes passent leur temps dans les travaux, qu'ils soient formels et informels, là aussi, on doit orienter une réponse propice.
Oui.
Parce que c'est là où nous passons beaucoup de notre temps.
Mm-hmm.
Nous sommes conscients, nous avons revu beaucoup de stratégies, et je pense que les gens vont nous attendre au tournoi.
Mm-hmm. Voilà.
Nous sommes en train de mobiliser les efforts dans tous ces sens-là.
Mm. Docteur, on va suivre le dernier auditeur de cette émission, c'est Daniel qui est à Kimpessé. On va revenir à vous pour la conclusion. Daniel, tout à l'heure, on avait des petits soucis des lignes avec Kimpessé. Maintenant, je crois que ça s'est arrangé. Hein. Vous êtes avec nous. Bonjour, Daniel. Daniel, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, je crois que les difficultés avec Kimpessé continuent, mais on va revenir à notre invité. Et docteur Assali, il y a par rapport aux ressources, parce qu'on a beaucoup insisté sur les ressources, quelle est la part aujourd'hui de la contribution dans le partenariat avec la communauté internationale, les apports extérieurs, on peut dire ainsi, hein, dans les travail de la lutte en termes de mobilisation des ressources aux ressources aujourd'hui?
Bon, il faut admettre que le plan stratégique qu'on venait d'élaborer nous demande, avec le cadre d'investissement, avec tout l'appui de la science technique internationale, nous prouvons qu'aujourd'hui, si le pays dispose de 2 milliards de dollars, ou juste en 2017,
mm-hmm.
les efforts seront les efforts plus visibles. Mais comme l'un des auditeurs avait dit, l'argent disponible déjà, qu'on compte, il sera disponible de 2015 jusqu'en 2017,
mm-hmm.
c'est le fonds donné par le Fonds mondial. Et c'est aux environs 130 millions de dollars pour lesquels nous continuons à faire un plaidoyer à écrire une note conceptuelle qui demande un peu que le besoin soit ouvert d'une manière plus élevée. Mais cela ne dit pas que le gouvernement ne devient pas de plus en plus responsable. Le gouvernement devient de plus en plus responsable parce que lui, c'est lui qui a demandé qu'on élabore ce plan stratégique.
Mm-hmm.
Et quand vous lisez dans le plan d'action du gouvernement 2012-2016, la mise en œuvre du plan stratégique est un des objectifs capitaux pour le gouvernement congolais. Donc nous devons croire, quand nous suivons encore les discussions sur le budget de la santé doit être plus élevé, mais il doit encore plus être canalisé vers la lutte contre le VIH/SIDA.
Mm-hmm.
Les documents des plans stratégiques restent un outil de coordination le plus important pour les ressources et même pour les stratégies de mise en œuvre.
Mmh. Docteur, une question peut-être à répondre en 30 secondes avant la conclusion, c'est par rapport à la tuberculose que vous avez évoquée. On sait que beaucoup de gens dans le milieu ont tendance à négliger hein, la tuberculose, n'est-ce pas, qui vous savez, associée, fait assez des ravages. En 30 secondes, comment se fait le travail en coordination avec ceux qui gèrent le service de la prise en charge en termes de, en fait, pour ceux qui sont touchés par la tuberculose en quelques secondes?
Oui, c'est très bon. La question est bonne. Et le programme de lutte contre la tuberculose et le programme de lutte contre le sida sont des programmes du ministère de la Santé qui agissent au niveau des centres de santé des hôpitaux.
Mm-hmm.
À ce niveau-là, les services, on dit, doivent être intégrés. Alors, l'effort qui est fait au niveau du pays entre les deux programmes, le programme de lutte contre la tuberculose est étendu presque dans tous les territoires
mm-hmm.
et il fait le diagnostic sur 1500 centres de dépistage et de traitement.
L'effort qui est fait par les deux programmes, c'est que, au moins l'année passée, 16,3% de tuberculés avaient aussi l'infection au VIH. Et c'est seulement 40%, dommage, qui ont eu les deux traitements, et les antirétroviraux, et les antituberculés.
Merci.
Voilà. Alors, l'effort que nous faisons aujourd'hui, c'est d'aller partout où sont les tuberculés qui sont dépistés, il faut leur donner les ARV.
Voilà, merci beaucoup docteur Assali de nous avoir accordé de votre temps pour commenter ces sujets avec les auditeurs. Merci pour tous les éléments des réponses. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs adjoints du programme national de lutte contre le sida PNLS.
Ok, merci beaucoup.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve demain vendredi pour les derniers numéros des paroles aux auditeurs de la semaine. Pour honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, le gouvernement congolais avait annoncé le 13 mai dernier la création d'une ville qui portera son nom. Lumumbaville sera située à l'actuel remplacement de la cité de Wembonyama jusqu'au groupement Ewango dans le territoire des Katakokombe au Kasai Oriental, fief natal de cet héros national. Ce projet venait de s'ajouter aux autres villes créées en son temps par un arrêté du Premier ministre Adolphe Mouzito. Où en est-on avec le projet de création de nouvelles villes et que faut-il pour leur réussite? On se retrouve demain à 11h03, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungembo qui l'a coordonné et réalisé. Jean-Claude Nsiala a assuré la mise en nom de Nicole Ngaka à la supervision. Vous allez retrouver l'émission à 20h03, heure de Kinshasa, mais aussi sur www.radiocapi.net. Au revoir.